Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore ce privilège Seigneur d'être en ta présence ce soir dans ta maison. Merci parce que tu nous as protégés pour venir jusqu'ici. Merci Seigneur parce que tu nous as donné rendez-vous. Merci Seigneur parce que tu vas nous apprendre, parce que nous savons que notre foi ne peut grandir que dans la connaissance de ta parole. Merci Seigneur de nous avoir amené Seigneur ton serviteur. Bénis-le Seigneur, fortifie-le Seigneur. Apporte Seigneur dans sa bouche tout ce que tu veux qu'il soit le canal, Seigneur. Le canal de ce que tu as à nous dire ce soir. Parce que, comme il est dit, Seigneur, nous voulons sortir de ta maison différents que nous sommes entrés. Merci, mon Dieu, parce que tu mets la paix aussi dans les cœurs et les esprits, Seigneur. Parce que tu vois parfois, après une semaine, eh bien, il y a des tourments de la vie quotidienne. Et nous voulons laisser tout ça en dehors, Seigneur. Et rentrer dans ta paix. Une paix divine qui ne peut venir que de toi, Père. Merci, mon Dieu, de protéger ceux qui vont encore arriver, Père. Afin qu'ils puissent eux aussi entendre ta bonne parole. Sois béni, Père éternel. Merci pour ta fidélité et ta grâce que tu nous donnes jour après jour. Ce souffle de vie, c'est à toi que nous devons. Le cœur qui bat, c'est à toi que nous devons. Merci, Papa. J'ai une pensée pour tous mes frères et sœurs persécutés, Seigneur. Afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que nous prions pour eux aussi, Seigneur. Merci, Père. Amen.
Seigneur, Seigneur, donne-nous ta sagesse, Seigneur, pour tout ce que nous en sommes prêts, et que nous venons, et bénis l'Église ce soir. Bénis ton assemblée aventurière, Seigneur, que l'onction soit particulière dans cet état, Seigneur. Ton esprit agit dans nos cœurs. Merci, Seigneur, de bénir cette parole enseignée, Seigneur. Cet enseignement qui nous passe bien, et que nous puissions être travaillés par ta parole, Seigneur. Et Jésus, on pourrait marcher par la foi. Oh Seigneur, fais ta volonté, Seigneur, avant les regards sur toi. Merci pour la connaissance que tu veux encore nous accorder. Une connaissance qui est grande en toi. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci.
Je vais inviter le pasteur Maguillard qui va nous apporter cette 11e étude sur la parole du chapitre 14. On est arrivé au fin du chapitre 13. Donc c'est le chapitre 14. Je vous bénisse.
Bonsoir, frères et sœurs. Content d'être avec vous. Je vais passer des bonnes fêtes. Parce que maintenant, on plonge de nouveau dans la grande tribulation. Ce n'est qu'une pause. Apocalypse 14. Nous allons surtout ce soir lire la parole de Dieu. Je ne vais pas dire énormément de commentaires moi-même. Je vais limiter les commentaires plus ou moins à joindre les versets bibliques. Mais surtout laisser ce soir parler la parole de Dieu elle-même. Donc, Apocalypse 14, je regardais. Voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient sur son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entends du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas fouillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne savent point trouver de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Vous les aimerez comme membres d'Église, ces gens-là, n'est-ce pas? Nous arrivons maintenant ensemble au dénouement, au climax de la lutte acharnée entre Dieu et Satan pour le contrôle de la création, de l'univers, de la terre et de tous ses habitants. Cette lutte qui a commencé déjà dans le jardin d'Éden, qui a toujours lieu de notre temps, n'est-ce pas? Nous vivons, nous chrétiens, consciemment tous les jours dans ce champ de bataille, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas durer éternellement. Et dans le chapitre 14 d'Apocalypse, nous voyons déjà le dénouement, le climax qui arrive. Et le chapitre 14 et jusqu'à la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, décrivent ce dénouement en détail. Et après le dénouement, la gloire éternelle qui va suivre. Et c'est là-dessus que nous fixons nos yeux, n'est-ce pas? La gloire qui va venir. Quand nous arrivons, par la foi et dans la foi, à fixer nos yeux sur la gloire qui va venir, tous les problèmes et les difficultés et toutes les souffrances du temps présent prennent une autre proportion. La proportion réelle qui est celle que Dieu voit. Le diable, lui, il est mauvais. Il exagère. Il prend, on dit en flamand, je ne sais pas si on dit ça en français, il prend le petit doigt et il en fait tout un bras. Et souvent, nous chrétiens, nous nous laissons piéger. Et nous suivons le diable dans ses pensées. Et alors, ce qui, dans les proportions divines, n'est qu'un petit problème qui n'a pas beaucoup d'importance, si nous ne faisons pas attention, nous permettons le diable à remplir toutes nos pensées, toute notre vie, avec cela. Mais, la vérité est, pour les enfants de Dieu, la fin et l'éternité, c'est la gloire.
Amen.
Avant de élargir la portée de la prophétie au monde entier, le chapitre 14 continue la pensée du chapitre précédent et parle surtout d'Israël. On va d'abord parler d'Israël pour, par la suite, élargir la prophétie au monde entier. Et on parle d'Israël, peuple choisi par Dieu, avec le plan de Dieu que Israël donne au monde le Messie, et donc le salut éternel. Et beaucoup de prophéties concernant Israël ont déjà été accomplies. D'autres prophéties concernant Israël sont en train d'être accomplies. Mais comme nous l'avons déjà vu, et contraire à l'enseignement de certains, Dieu n'a jamais rejeté Israël. Israël a toujours été et est alors son peuple choisi. Dieu n'a pas rejeté Israël ou donné sa place, son appel, à l'Église. Ça, c'est une doctrine malheureusement enseigné dans certaines parties de la chrétienté, mais qui n'a pas de fondement véritablement biblique. L'Église n'est jamais devenue Israël. Un chrétien n'est pas un juif, même pas un juif spirituel. N'est-ce pas? Un ballon est un ballon. D'accord? Un flamand, un peu vieux. En anglais, ça. Un juif, c'est un juif. Et Israël est Israël. Et l'Église est l'Église. Ne confondons pas les choses que Dieu a clairement mises à part. Pourquoi est-ce que certains disent que Dieu a rejeté Israël, condamné Israël même, maudit Israël même? Eh bien, soi-disant parce que Israël a crucifié le Messie. Et Dieu ne les a pas pardonnés, ne les pardonnera jamais. Et c'est pour ça que Dieu aurait rejeté, condamné même, maudit Israël. il est clair qu'Israël a souffert. Israël a toujours souffert. N'est-ce pas? Depuis Abraham, le début d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, donc pas seulement depuis qu'Israël a crucifié le Messie, Israël a toujours souffert. Mais n'est-ce pas ça? L'enseignement de la parole de Dieu, c'est un enseignement que moi personnellement je n'aime pas, je le confesse, c'est que le fait d'être enfant de Dieu ne nous met pas à l'abri de souffrances et d'attaques. Il y a des gens qui pensent, si on est enfant de Dieu, jamais le moindre de souffrance. C'est pas ça qui enseigne la Bible. Au contraire, la Bible enseigne que si on veut vraiment suivre Dieu, le diable ne nous laissera pas tranquille. Je ne vous apprends rien en vous disant que le diable, il ne nous aime pas. Vous savez ça. Le diable ne nous aime pas. C'est pas grave, hein, nous ne l'aimons pas lui non plus. Donc, c'est mutuel. Mais Israël a souffert, continue à souffrir, pas seulement parce qu'ils ont rejeté le Messie, et même pas, premièrement, parce qu'ils ont rejeté le Messie. Si Israël a souffert, c'est parce que c'est le peuple de Dieu. Et le diable ne nous aime pas nous, mais il aime Dieu encore moins. Et alors il s'attaque au peuple de Dieu. Jésus lui-même, il a prévu cette situation. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il entoura du nez, creusa un pressoir, bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Pendant la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de produits de la vigne. S'étant assis de lui, il le battit, il le renvoyèrent à lui. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'il tuait, puis plusieurs autres qu'il battit et ou tuait. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant, ils ont rendu respect pour mon fils. Et ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez tuons-le, et l'héritage sera nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Il avait dit que leur table soit pour eux une piège, un piège, un filet, une occasion de chute et de rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je puisse entrer. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'infidélité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, du cœur. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront hantés selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Compliqué. Il faudrait rentrer à la maison et relire ce passage 2-3 fois lentement. L'apôtre Paul est théologien, moi je ne le suis pas. Un théologien, il voit toujours très très clair, mais il a parfois difficile à expliquer dans des termes faciles pour nous les laïcs. Autant ce passage de l'apôtre Paul, qui concerne la relation entre juifs et non-juifs, Israël et le monde, est un de ces passages les plus profonds, les plus enseignants de toutes ces écritures, en soi. Ça vaut la peine d'être étudié, médité. Je n'ai pas l'intention de ce soir d'expliquer, de commenter tout cela mot par mot. Ça prendrait plusieurs études. C'est intéressant à le faire, mais c'est assez détaillé. Ce que je propose de faire, c'est de tirer certains thèmes, certains principes de ce qu'il dit et de les expliquer. Ce que nous avons lu, c'est que Dieu n'a pas rejeté Israël. Ce que Dieu a fait, il a ajouté l'Église, n'est-ce pas? Cela n'empêche pas les Juifs à se convertir. Dieu n'a pas oublié son peuple. Et ce que ce passage nous dit, et l'Apocalypse le confirme, c'est que vers le temps de la fin, Israël se relèvera. Politiquement, nous l'avons déjà vu, le pays d'Israël est redevenu indépendant en 48. Politiquement, géographiquement, si vous voulez. Spirituellement, ça commence maintenant aussi. De plus en plus de Juifs se convertissent au Seigneur, se relèvent, si vous voulez. Jésus dit, ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ceci parle du temps de la fin. C'est Luc 21, un des chapitres où Jésus parle du temps de la fin. Et les Juifs tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds des nations, par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Qu'est-ce que ça veut dire? Les temps des nations, c'est maintenant. les nations
gouvernent le monde, règnent sur le monde. Israël ne règne pas sur le monde. La capitale du monde n'est pas à Jérusalem. Mais ça va changer. Cette situation où Jérusalem est foulée aux pieds par des nations et où les nations règnent sur le monde durera jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et les temps des nations sont en train de s'accomplir. Ça touche à sa fin. Pierre dit aux Juifs, intéressant, vous connaissez tous l'histoire en Actes chapitre 3 où Pierre et Jean guérissent le boiteux devant la belle porte. Et après cette guérison miraculeuse, Pierre prêche et prononce son message et dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, les Juifs vont expérimenter leur relèvement spirituel comme un temps de rafraîchissement. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus vient d'être envoyé à ce moment-là, n'est-ce pas? Il est mort et ressuscité seulement il y a quelques semaines. Mais déjà, Pierre parle du retour de Jésus. Il va vous envoyer celui qui vous a été destiné, qui vous a été destiné, vous, Juifs. Pas seulement païens, mais aussi juifs, lors de ces temps de rafraîchissement. Il envoie, qui vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel va recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. L'apôtre Paul va expliquer cela un peu plus en détail. Il va écrire ceci. Je ne veux pas faire que vous ignoriez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, si vous voulez, c'est comme si Israël est un peu poussé sur le côté, pas dans le sens de ne plus compter, mais pour ne pas occuper toutes les chaises, afin qu'il y ait la place pour nous, païens, à entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, on dit ceci, et ceci a donné au fil des siècles pas mal d'arguments. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Et surtout, le problème avec tout. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Mais, en ce qui concerne l'élection, ils ont aimé à cause de leur père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son père. Dieu appelle Israël pour être son peuple dans ça. Ah, n'est-ce pas déjà? Et comme nous savons, si nous suivons l'histoire d'Israël, je ne vais pas raconter tout ça ce soir, nous le savons, Israël a eu des hauts et beaucoup de bas. Ils n'ont pas toujours été fidèles. Mais Dieu a toujours été fidèle. Même quand Israël ne l'était pas, Dieu l'est resté. Dieu ne se repent pas de son appel. Il n'est pas venu un moment où Dieu s'est dit, oh là là, je me suis trompé avec ce peuple d'Israël, j'aurais dû choisir les barons. Il n'y a jamais eu ce moment-là, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais dit, je me suis trompé avec Israël. Même quand il le rejetait, etc., etc., quand ils n'étaient pas fidèles, Dieu ne les a jamais rejetés. Il n'a jamais dit, je vais choisir un autre peuple à leur place. Même pas, maintenant je vais choisir l'Église à leur place. Non, Dieu ne se rend pas compte de son appel. Alors dans tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ou de tout ce que j'ai dit maintenant, je voudrais sortir trois éléments. Je pense qu'ils sont très importants. D'abord, c'est qu'il y aura, il y a toujours eu, et il y aura toujours, un reste d'Israël. Israël a suivi beaucoup de persécutions. Des tentatives même d'éradication totale. On n'a qu'à penser à Adolf Hitler et l'Holocauste, il y a quoi, 75 ans. Mais Israël a toujours survécu. Il y a une très intéressante prophétie de Jérémie qui dit ceci. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Le prophète Osée dit, il aura la magnificence de l'olivier. Dieu compare son peuple choisi à l'olivier. Pourquoi l'olivier? Vous voyez ce que c'est, l'olivier? C'est pas exactement un arbre impressionnant, n'est-ce pas? Le petit, le joli, grandit presque jamais plus que 15 mètres. Et les branches sont si sinueuses, vous pouvez rien fabriquer avec ça. Avec le bois de l'olivier. Des tout petits trucs. Vous ne pouvez jamais construire une maison avec. Pourquoi ne pas comparer Israël à des chênes, ou des palmiers, ou des arbres un peu plus impressionnants? Eh bien, parce que l'un d'olivier possède des caractéristiques que les autres arbres ne possèdent pas. Qu'est-ce que c'est? Un olivier ne meurt jamais. Intéressant. On peut le maltraiter, on peut le couper, on peut le priver d'eau, on peut même le brûler. Il repousse toujours. Le rivier repousse toujours. Et Israël est comme le rivier. N'est-ce pas? Hitler peut tuer tous les Juifs pour essayer, mais il repousse. Encore une fois, l'apôtre Paul aux Romains. Ésaïe s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Cela s'est passé à plusieurs reprises dans leur histoire. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous ait eu laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. L'Église n'a pas toujours compris ça. Martin Luther, à qui nous devons la réformation, était très antisémite, très anti-Israël, anti-juif. Et lui, aussi bien que beaucoup d'autres, après lui, avant lui aussi, ont cru que c'était définitivement fini avec Israël. Que Dieu punissait les juifs collectivement pour avoir crucifié Jésus. Et d'après eux, et d'après, malheureusement, beaucoup d'antisémites encore aujourd'hui dans le monde, les Juifs ne méritent plus de vivre. Bon Juif, combien de fois est-ce qu'on a pas ce de cela? Je l'entends encore aujourd'hui. Bon Juif. Ils n'ont pas le droit, ils ne méritent pas de vivre. Encore moins de vivre éternellement. Et encore moins de vivre éternellement au ciel. Ceux qui disent ça, ils ont tout à fait raison. Monsieur William, c'est en plus c'est dit. Non, ils ont raison. Les Juifs et nous, nous ne méritons pas de vivre éternellement. Nous ne méritons pas de vivre éternellement au ciel. Mais heureusement, Dieu ne traite pas avec nous sur base de nos mérites, mais sur base de sa grâce. Pas nos mérites, mais sa grâce. Et c'est pour cela qu'Israël, malgré toutes leurs infidélités, malgré le rejet du Seigneur, vivra éternellement au ciel. Pas sur base de mérite, mais sur base de grâce. Et l'élection d'Israël a d'ailleurs toujours été sur base de grâce. Moïse dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Et la lettre aux Hébreux ajoute, il y a donc le repos de Sabbat des amis au peuple de Dieu. C'est parce que Dieu les aime qu'Israël subsiste encore et subsistera toujours. Ça, c'est la première grande promesse. La deuxième, encore un peu plus loin. Pas seulement que Dieu promet qu'Israël existera toujours, mais Dieu promet aussi qu'Israël sera sauvé. Nous, chrétiens, nous comprenons ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, sauvé? Que nos péchés sont pardonnés et que nous passerons l'éternité au ciel avec Jésus. Si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Donc ils ont été retranchés. Mais ils peuvent être hantés de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature, sur l'olivier blanc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur olivier, car je ne veux pas faire que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme des sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'engloutissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ce temps, les païens touchent à sa fin. Les païens qui vont et qui vont être sauvés, le nombre est presque complet. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Et ce que cela nous montre, et ceci est important, et c'est très important, parce que nous entendons des fausses doctrines à ce sujet, c'est que Israël n'est pas sauvé sur base de l'ancienne alliance. Israël est sauvé sur base de la même nouvelle alliance que nous. Il y a des gens qui enseignent que Dieu, il a un autre chemin pour les Juifs. Les Juifs peuvent arriver au ciel par un autre chemin que nous. Ce n'est pas ça qu'enseigne la Bible. En effet, si la nouvelle si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, si la première alliance aurait suffi à faire entrer les Juifs et nous au ciel, on n'aurait pas eu besoin de la nouvelle alliance. Jésus n'aurait pas eu besoin de venir à ce monde et à être crucifié. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai de la maison d'Israël et de la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je faisais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai des lois dans leur esprit, plus sur les tables de pierre, mais maintenant dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son père en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Formidable, non? Parce qu'une promesse de l'ancienne alliance, encore une, Jérémie. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Israël, alliance qu'ils ont violée, pas que je puisse leur mettre, dit l'Éternel. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Et je me souviendrai plus de leur péché. Je mettrai ma loi en dedans d'eux, je les crierai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son père, en disant, connaissez l'Éternel, car tous nous connaîtrons, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Une merveilleuse promesse. Et maintenant, tout Israël s'en sauve. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les Juifs, n'importe s'ils sont pécheurs ou saints, fidèles ou infidèles, croyants ou non, seront sauvés? Qu'ils acceptent Jésus, qu'ils aient accepté Jésus ou non, ils seront sauvés? Tout Israël sera sauvé du pauvre. Est-ce qu'il y a un deuxième chemin? Un chemin alternatif, sans passer par Jésus? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Le seul chemin. J'espère que nous croyons ça tous, parce que sinon nous avons sérieux problème. L'apôtre Pierre dit, il n'y a de salut en honneur aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Au temps de la Bible, les Juifs disaient, entre eux-mêmes, chaque Israélite aura part à l'âge futur. Et ils disaient ça sur base d'un texte en Ésaïe 60. Il n'y aura plus que des juges parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Donc les Juifs, à l'époque de la Bible, croyaient que si elle était juive, en passerait l'éternité au ciel. Il suffisait d'être lui. C'est tout. Juif, le fait d'être juif garantissait une passe éternelle au ciel. Quand Paul écrit tout Israël sera sauvé, est-ce que ça confirme ce qu'il croyait? Est-ce que ça veut dire que tous les juifs iront automatiquement au ciel seulement sur base du fait qu'ils soient juifs? Quand on lit ces paroles dans leur contexte, leur signification devient claire. Beaucoup de juifs sont morts sans Jésus. Et un juif qui meurt sans Jésus, son sort est le même que celui d'un non-juif qui meurt sans Jésus. Qu'est-ce qui est l'avenir de quelqu'un qui meurt sans Jésus? L'enfer. Non? Qu'on soit juif, ou qu'on soit homme. C'est la même chose. Si on meurt sans Jésus dans son cœur, on va partir. On est perdu éternellement. La Bible prophétise, comme nous l'avons déjà vu, qu'au temps de la fin, Israël sera restauré en tant que nation. Cela c'est déjà un fait. Depuis 1948. Malgré son infidélité, Israël est toujours le peuple de Dieu. Et il jouit toujours de sa faveur, selon la promesse que Dieu a donnée dans son alliance avec Abraham. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, perpétuel? C'est le contraire de temporaire, n'est-ce pas? Perpétuel, ça ne finit jamais. Donc, même si Israël n'est pas fidèle, l'alliance reste perpétuelle. Salmiste chante, Dieu se rappelle à toujours son alliance. C'est promesse à 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. L'apôtre Paul parle des Israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire, les alliances, la gloire, le culte, les promesses. Pas à qui appartenaient, mais à qui appartiennent. Donc, même dans ce temps du Nouveau Testament, où les Juifs ont rejeté le Seigneur, où les païens viennent par millions au Seigneur, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, Dieu, les promesses appartiennent toujours à Israël. Une disposition que Dieu a confirmé intérieurement ne peut pas être annulée. Ça, c'est une promesse que j'aime beaucoup. Vous aussi? Ça veut dire que si Dieu nous fait une promesse, nous pouvons compter dessus. D'accord? Une disposition que Dieu a confirmée intérieurement, demain il l'a oublié. Ou après demain il change d'avis. Non. Ne peut pas être annulé. Et au temps de la fin, ce que nous voyons maintenant déjà, il y a déjà commencé, petit à petit, les Juifs qui viennent au Seigneur, de plus en plus. On ne sait pas exactement combien, parce qu'il n'y a pas de statistiques exactes. On estime que le nombre serait actuellement entre 100 et 300 000. Mais qui sait le nombre exact? Dieu seul connaît les cœurs. En tout cas, il est clair que cela va de plus en plus. Il y a de plus en plus de Juifs qui se convertissent au Seigneur. Et vers les temps de la fin, cela va s'accélérer beaucoup de Juifs vont se convertir au Seigneur. Certains pensent même que tous les Juifs qui vivront à la fin de la grande tribulation vont se convertir au Seigneur. Ésaïe prophétise un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Il faut encore une fois, ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'aurai leurs péchés. Comme pour nous, aussi pour les Juifs, le salut est conditionnel. Ce n'est pas seulement parce qu'on est juif qu'on est automatiquement sauvé. Il y a besoin d'une conversion réelle. Et pour les juifs, cela a toujours été le cas. Moïse exhorte Israël lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi. Si tu prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu te va chasser, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te ramènera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu pourra disperser. Et quand tu auras exilé, quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et que tu le posséderas. Il te fera du bien, il te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Et l'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi tu viendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Tout comme nous, les Juifs vont être jugés selon leur voix. Ézéchiel dit, c'est pour toi que je vous jugerai, chacun selon ses voix, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez, et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison du Seigneur? Le salut, vous êtes d'accord avec moi, n'a jamais été automatique. On n'a jamais été sauvé simplement parce que on était juif. On n'a même jamais été sauvé simplement parce qu'on était bon. On a toujours dû se convertir au Seigneur. Le salut n'est jamais automatique, ni pour nous, ni pour les Juifs. Et il n'y a point de salut hors Jésus-Christ, y compris pour Israël. Il n'y a donc pas un deuxième chemin. Il n'y a pas un autre chemin alternatif. Maintenant la troisième promesse. C'est qu'Israël existera comme nation jusqu'à la fin des temps. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Et autant que j'ai constaté, et vous aussi, le soleil se lève toujours. Hein? Oui. Donc, Dieu, les promesses de Dieu n'ont pas cessé. Si le soleil s'arrête de se lever et de se coucher, alors à ce moment-là, les Juifs vont avoir un problème. Et Dieu dit aussi longtemps que le soleil se lève et se couche. Les promesses, les alliances, restent valables pour Israël. Ne n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, ils méprisent mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai le captif, j'aurai pitié. Auront été assemblés, ressemblés d'entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Nous avons déjà vu des prophéties et nous en verrons encore dans les chapitres qui suivent. Nous avons déjà vu des prophéties qui parlent de la résurrection d'Israël. Bien sûr, c'est une résurrection spirituelle, mais ce n'est pas seulement une résurrection spirituelle, c'est aussi une résurrection réelle, physique. Le peuple d'Israël, la nation d'Israël, ressuscitera. Et je ne peux pas m'empêcher de lire un chapitre préféré qui parle de cela d'une façon si dramatique, mais aussi si claire. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivre. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Imaginez-vous que vous êtes le prophète Ézéchiel, dans ce vallée. C'est un des ossements. Et les eaux sont secs, déjà. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus jamais la parole. Et Dieu lui dit, maintenant tu vas parler. Tu vas prophétiser. Tu vas prêcher à ces eaux. Aujourd'hui, Seigneur, je ne sais pas. Vous êtes qui avait fait. Tu prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Mais quand je prophétisais, il y eut un bruit, voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'espère qu'on a fait le message. Vous croyez? Un ange a dû être quelque part dans la vallée des ossements avec une caméra, non? Ils ont filmé ça, et au ciel, on pourrait aller au cinéma. Voilà. Moi, j'ai déjà réservé ma place. Je voudrais voir ça. Ça doit être quelque chose, vous imaginez? Les ossements. Les os s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. J'en ai un Seigneur. il n'a pas encore d'esprit. Et Dieu lui dit, prophétise encore, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. L'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ses eaux, c'est toute la maison de Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. On dit donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres comme mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres comme mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Cela est une prophétie donnée 2550 ans comme Jésus. Non, il y a 2550 ans. Et aujourd'hui, ce que Ézéchiel n'a vu que spirituellement, nous le voyons visiblement. Dieu ramène Israël dans son propre pays. Selon sa promesse, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux. Il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Et je ne les aurai point en horreur, jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Alors l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans les lieux habités du pays. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui l'a rassemblera. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où sont allés, je les rassemblerai de tout part, et je les ramènerai dans leur pays. Je fortifierai la maison de Judas, je délivrerai la maison de Joseph, je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu, et je les ai tous. Je les cifrerai, je les rassemblerai, car je les rachète. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin ils se souviendront de moi, ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Je les ramènerai du pays de l'Égypte. Je les ramènerai de la Syrie, je les ferai venir au pays de Galade et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais l'on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Il lèvera une bannière pour les nations. Ils rassembleront les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés du Judas, les quatre extrémités de la terre. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident, je dirai aux septentrions, donne et au Midi, ne retiens point de devenir mes fils des pays lointains et mes fils de l'extrémité de la terre. Voici, je les ramène du pays de septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont les aveugles, les boiteux, la femme enceinte, celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Vous avez déjà convenu que c'est des Grecs que les Juifs ont en Israël. Il y a peu de prophéties dans la Bible sur un seul sujet, autant que sur ce sujet-là. Projetons maintenant tout cela au temps latin. Parce que c'est dans ce temps latin que cela s'accomplit, s'achève. Tout au début de son alliance avec Israël, Dieu parle de l'étendue de leur territoire. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Euphrate. Zoé pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil du champ. Du territoire d'Israël qui a été promis à Israël, mais qui n'a jamais occupé. La terre d'Israël, que nous voyons aujourd'hui, est à peu près la même terre que Israël occupait au temps biblique. Pas tout à fait toujours la même, les frontières d'Israël dans la Bible ont été un peu élastiques. Mais, plus ou moins, c'était la superficie que nous voyons sur la carte aujourd'hui. Un pays en superficie, à peu près la même grandeur que la Belgique, 30 000 km². La Belgique est plus compacte, Israël est fait long, pas tellement large, Israël est 500 km de long et 60 km seulement de large. La Belgique, c'est quoi, 60 km de large, oui. 150, ils l'ont reçu. Mais en superficie totale, en kilomètres carrés seulement. Donc c'est pas un grand pays, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'à la fin des temps, la promesse à Abraham qui a été répétée à Josué, Israël s'étendra du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Le grand fleuve d'Euphrate, c'est nous. C'est l'Irak, n'est-ce pas? Entre l'Irak et l'Iran. C'est-à-dire, en vol d'oiseau, de Jérusalem, un peu plus de 1000 km. Et le fleuve d'Égypte, beaucoup disent, c'est le Nil. Probablement pas. Probablement pas le Nil. Probablement une petite fleuve dans le désert de Sinaï, pas aussi loin que le Nil. Ce n'a pas d'importance. Ce que je voulais montrer par cela, c'est que le territoire qui a été promis à Israël, déjà Abraham, est 10 fois plus grand que ce qu'ils ont maintenant, au moins. Vous pourriez dire à quoi ça sert? Parce que tout ce territoire-là, je vous indique, à quoi ça sert d'avoir beaucoup de territoire si vous ne savez rien faire avec? Déjà maintenant, le petit pays d'Israël, plus de la moitié, c'est désertique. Et ceux qui ont été en Israël et qui ont vu le désert, savent très bien, vous savez rien faire avec. C'est la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? Une prophétie remarquable. Sur la terre de mon peuple, croissent les épines et les roses, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu dans vos yeux. Et que le désert se change en berger. Et que le berger soit considéré comme un forêt. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. elle se couvrira de pleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du vivant lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Nous verrons la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le mythe, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles, le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes les ruines, il rendra son désert semblable à Médan. Et sa terre arrive un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. L'arbre des champs donnera son fruit. La terre donnera ses produits. J'établirai pour elle une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Et elles ne porteront plus leur propre des nations. J'appellerai le blé. Je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Bête des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront le fruit, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la richesse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la vieille saison, comme autrefois. Les airs rempliront de blé, se rempliront de blé, et les cuves remonteront de blé. C'est une prophétie qui va s'accomplir complètement encore. Mais quand le retour au pays et le rétablissement de la nation, cette prophétie aussi, on voit déjà le début de son accomplissement. Il y a quelques années, j'étais en Israël et j'étais à Eilat, tout à fait au sud, donc à la mer. Rouge. On passe de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite. J'ai pris la voiture pour monter en Galilée. Ça fait plus de 300 km. Et plus de la moitié de ces 300 km, c'est désert. On vous dit, avant de partir, de veiller à ce que votre réservoir d'essence plein et que vous avez assez d'eau à boire. Parce qu'il peut faire jusqu'à 55 degrés dans le désert. Et vous faites des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres de désert. Et j'avais déjà fait cette route quelques années auparavant. Donc je connaissais la route. Mais maintenant, je ne croyais pas mes yeux. Le long de la route, pendant des kilomètres, et les deux côtés de la route, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait des serres. Vous savez ce que je veux dire? On dit ça, on peut le faire, pour cultiver des fruits et des fleurs. Alors, moi, je ne suis pas du tout agricole, mais je sais que si vous voulez cultiver des fruits et des fleurs, il vous faut l'eau. Et dans le désert, c'est le désert du Néguev, dans une mauvaise année, il pleut deux fois. Pas comme dans la rue. Dans une mauvaise année, il pleut deux jours. Ça n'est pas suffisant pour faire de l'agriculture. Alors, arrivé chez un ami, qui est juif, lui, qui habite le pays, je lui dis, comment ça se fait? C'est fruit, des kilomètres et des kilomètres, on a même construit des villages pour les ouvriers, parce que c'est tellement loin de la civilisation. Et il m'a expliqué, il dit, c'est le début de l'accomplissement de la prophétie. Mais quand Israël est devenu indépendant en 1948, ils avaient un grand problème, et c'est toujours un problème, mais c'était très grand dans ce moment-là, c'est qu'ils n'avaient pas il fallait emporter le pétrole, n'est-ce pas? Et bien que tous les pays autour d'Israël, les pays arabes, ils nagent dans le pétrole, ils ne voulaient pas vendre une goutte aux Juifs, vous comprenez? Alors les Juifs étaient obligés de faire venir le pétrole de la Venezuela, donc tout à fait de l'autre côté du monde. Alors les Juifs se sont dit, 48, tous les pays arabes autour de nous, ils ont du pétrole, sans doute que chez nous, il y en a aussi. Alors ils ont fait des forages, un peu partout dans le désert, ils n'ont pas trouvé. Pas, quelques gouttes, mais pas assez pour exploiter commercialement. Donc, jusqu'à maintenant, ils ont été, et toujours aujourd'hui, ils dépendent des autres. Et jusqu'à aujourd'hui, les Arabes ne leur vendent pas. Et alors, mon ami m'a expliqué que, il y a quelques années, entre-temps, depuis 48, bien sûr, la technologie est avancée. Ce qui veut dire que maintenant, on est capable de faire des forages beaucoup plus loin. Alors, ils peuvent faire des forages jusqu'au moins 500 mètres. Alors, ils se sont dit, on va essayer de nouveau, voir si on ne peut pas trouver du pétrole. Et dans le Negev, ils n'ont pas trouvé du pétrole. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? De l'eau. À 400 mètres en dessous du sol, des nappes d'eau énormes. Ils ne savent pas combien d'eau il y a. Mais ce qu'ils ont déjà découvert assure l'agriculture pour au moins 250 ans. Et ils pensent qu'il y en a beaucoup plus. Si vous suivez les nouvelles, vous savez que dernièrement, les derniers 2-3 ans, ils ont fait encore des forages, encore plus bas, et devant la côte de la Méditerranée, et sur le Golan, ils n'ont toujours pas trouvé du pétrole, mais maintenant ils ont trouvé du gaz. Tant de gaz qu'ils vont pouvoir l'exporter au Moyen-Orient. Et la Turquie a déjà signé des contrats. Mais bon, pour le gaz, je ne pense pas que cela est prophétisé dans la Bible. On n'avait pas besoin de gaz et de pétrole à ce moment-là. Par contre, on a dit le désert va fleurir. Je vous assure que vous prenez la route nationale maintenant, de Eilat jusqu'à Galilée, et des deux côtés, dans le désert, du Negev, vous voyez, oui, là, incroyable, alors qu'il ne pleut pas. Ce qui est formidable, c'est que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il va aussi pleuvoir. Ça, il faut encore l'expérimenter. Pour ceux qui vont venir avec moi en Israël dans l'avenir, puisque nous sommes dans la fin des temps, mettez s'il vous plaît dans votre valise une parapluie. Je vais terminer pour ce soir. Les villes détruites seront reconstruites. Ils repartiront sur l'ancienne ruine, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les établirai, comme autrefois dit l'Éternel. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées. L'on repartira sur ces ruines. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, les ruines seront relevées, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues seront fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront, comme par l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, et planter ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Israël connaîtra dans la fin des temps, et ça nous voyons déjà accomplir, une grande prospérité économique. Et ça, c'est nouveau. Israël, dans toute son existence, dans toute la période de la Bible, a été un pays pauvre. N'est-ce pas? Dans la fin des temps, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Dans les trésors des nations viendront en toi. Les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer, l'or, l'argent et des vêtements, du très grand nombre. Amen. Ça, c'est l'introduction au chapitre 14. Ok? Nous voulons la fois prochaine, on va regarder le texte. Merci. Je vous bénisse.